le 16. Sortie cinéma.
Oui, ben, ce sera pas exactement une sortie cinéma, à moins que vous vous planifiez d'écouter des films que vous ne connaissez pas, mais c'est le magazine britannique Sight and Sound, qui est affilié au British Film Institute, qui, à chaque 10 ans, publie sa liste des, je pense, c'est 200 ou 250 meilleurs films de tous les temps. En fait, ils demandent à des critiques et des réalisateurs de faire un top 10 de leurs films, puis après ça, ils pondèrent selon peu importe. Puis là, cette année, juste pour présenter un peu l'importance de ça, la revue a été fondée en 1952. Donc, il y a eu c'est la septième liste, en fait, qui est sortie. Et dans cinq de ces sept listes-là, c'est Citizen Kane qui arrivait numéro un. Mais depuis 2012, c'était pas le cas. C'était Vertigo d'Alfred Hitchcock. Mais là, cette année, c'est un nouveau film, un film belge qui trône au sommet du palmarès. Wow. Un film de Chantal Akerman. C'est ça, à chaque fois que je parle à des Belges, ils connaissent pas... Vous connaissez pas votre cinéma, les frères Dardenne?
Ah, ça oui.
Vous les connaissez? Ça, non, mais vous avez jamais vu de film, ça.
Exactement.
Je sais. Benoît Poelvoorde. Ah,
oui, mais ça, on le connaît.
Oui, mais c'est parce qu'il est allé en France.
Oui, c'est
arrivé près de chez vous. Connaissez-vous ce film-là? Non? Non,
Seigneur. Ça me dit quelque chose.
1992.
En fait, c'est surtout
mais c'est pas lui qui est numéro
un nom d'émission qui est très connu aussi. Donc,
ah oui, c'est bon.
Si j'ai déjà vu le film.
Mais bref, le film qui est maintenant au sommet, il s'appelle, le titre est assez long, là, ce qui est très français, slash belge, là, je trouve comme move, là, mais ça s'appelle Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles. Un film de 1975 c'est souvent considéré comme le premier chef-d'œuvre féministe, en fait, de l'histoire du cinéma. C'est un film... épique, entre guillemets, parce qu'il dure 3h30 minutes. Ça suit, en fait, pendant
3h30?
Ouais. Ça suit... C'est vraiment particulier comme film. Ça suit une prostituée, mais jamais dans les moments où elle se prostitue.
Ouais.
C'est toujours dans l'entre-deux. Ce qui fait que c'est un film un peu controversé, puis ça a causé beaucoup de controverses là, auprès des cinéphiles, des die-hards, je sais pas c'est quoi l'expression, là, mais des vrais cinéphiles qui sont évidemment pour la plupart des hommes blancs. Puis là, ils sont pas contents de voir un film féministe en numéro un. Il a fallu que je me désabonne, mais que je mute des groupes Facebook, là, parce que là, ça devenait insultant. Là, mais on peut juger ou non là, de est-ce que ça devrait être le meilleur film de tous les temps. Peut-être pas, là, parce que vous savez même pas c'est quoi. Il y a personne qui sait c'est quoi. Ça veut pas dire que c'est pas le meilleur film de tous les temps, mais on s'entend que Citizen Kane, même si personne l'a vu, tout le monde sait un peu c'est quoi. Puis d'ailleurs, c'est à cause de cette liste-là qu'on considère Citizen Kane comme le meilleur film de tous les temps.
Moi, je l'ai jamais vu, mais je sais pas ce que c'est.
Je sais pas, OK. Mais c'est vraiment considéré comme le meilleur... Ben, en tout cas, plus maintenant. Mais c'est souvent considéré... C'est Orson Welles qui a fait ce film-là. Bref, c'est ça. Puis en fait, ce qu'on critique, c'est... c'est pas une critique tant... Ben oui, on critique ça, mais je trouve que c'est une bonne chose. C'est que le nombre de personnes qui votent a doublé depuis la dernière liste de 2012, donc il est passé de 800 à 1600 personnes. On a essayé de faire place à plus de diversité, évidemment, inclure des femmes, inclure des personnes de différents backgrounds ethniques, culturels, des trucs comme ça. Puis, ce qui donne des films un peu surprenants par endroit. En tout cas... Il y a beaucoup de gens qui chialent comme quoi c'est rendu politique, là, comme si j'avais jamais été politique, ce type de liste-là. Mais la seule critique moi, que je fais un peu de cette liste-là, c'est qu'il y a beaucoup trop de films récents. Je trouve que d'élever au titre de chef-d'œuvre du cinéma des films, par exemple, de 2019, tu sais, je trouve que c'est comme pas regardé très, très loin nécessairement.
Ouais.
Je pense que c'est dans la démarche, c'est ça où le bas blesse. Bon, Jeanne Dielman, en tout cas, le nom qui finit plus.
C'est Dielman.
Dielman, ben voilà. lui, c'est un film de 1975, donc je pense qu'il a fait ses preuves, mais c'est ça, ça montre à quel point, peut-être avant, c'était un réseau d'hommes blancs, puis maintenant que ça devient plus universel ou plus représentatif, c'est ce groupe de membres votants. Mais ça montre peut-être à quel point ce film-là, ou en tout cas d'autres films moins connus, ont eu une influence sur des gens qui ont fait des films connus, notamment Jane Campion, qui a gagné plus récemment la meilleure réalisatrice aux Oscars. Il y a vraiment, si je parcours le top 10 ou 20, peu importe, Citizen Kane, là, qui était numéro 1 pendant longtemps, mais là, il est numéro 3, donc il n'est pas très, très loin. Vertigo d'Alfred Hitchcock aussi n'est pas très très loin. Il y a 2001, Space Odyssey, qui est numéro 6. Il y a Mulholland Drive de David Lynch, qui est quand même assez récent, mais ça fait 21 ans. C'est quand même pas si mal, mais c'est un des rares films des années 2000 qui est là. Il y a quoi d'autre? Le Parrain, qui est en 12e place, lui aussi. Souvent, c'est considéré comme un des meilleurs. Il y a eu de la place Agnès Varda, connaissez-vous? Réalisatrice française.
Elle a fait quoi?
Elle a fait Cléo de 5 à 7. Elle a fait beaucoup de films. Ça a été la seule femme de la Nouvelle Vague, là, essentiellement. Bref, elle aussi, elle a une place en 14e place, en fait, avec Cléo de 5 à 7. Apocalypse Now, Seven Samouraïs. Bref, il y a des grands classiques, mais c'est ça, il y a des films un peu plus récents. Puis là, ben, j'ai pas toutes les chiffres.
Il n'y a pas Avatar.
Non, il n'y a pas Avatar, malheureusement. Il y a probablement... Ah, je ne sais pas si Titanic serait là.
Il n'y a même pas Titanic dedans?
Non. Non, mais je crois pas. Il n'y a pas beaucoup de blockbusters. Là, je ne vous ferai pas des... je vous apprendrai peut-être rien.
Il
n'y
a
c'est,
même
c'est
pas
dommage.
Intouchable.
Non, ben, assurément pas. Il a été détruit par les critiques Intouchables, si... C'est sympathique quand même.
C'est super bien comme film.
Ouais. Mais les critiques, on peut aimer ça. Puis c'est eux qui votent pour là. Mais il y a la liste des meilleurs réalisateurs aussi qui peut-être ça pourrait percer. Parce que les réalisateurs ne cherchent pas nécessairement la même chose dans chacun des films. Bref, il y a. Là, c'est ça, j'essaie de fouiller parmi tous les chiffres, puis je ne le trouve pas. Mais je pense que c'est 9. Ouais, 9 films qui sont des années 2000, ce qui est quand même beaucoup. C'est presque 10% de la liste qui est depuis les années 2000. Je trouve que c'est un peu récent, mais bon, il y a notamment des films des studios Ghibli. Ça, vous connaissez. Puis nous, on n'a vraiment pas ça, cette culture-là. Tu connais pas, hein, c'est ça. En France, en Europe en général, je pense que c'est bien connu, mais Disney a acheté les droits des studios Ghibli ici, puis ils ont arrêté, ils ont empêché leur diffusion, en fait.
C'est
pour ça que personne ne connaît ça.
Est-ce que c'est parce qu'il y avait une mauvaise entente entre le Japon et les États-Unis?
Ils voulaient garder le monopole, essentiellement. Ils ont acheté les droits de distribution, puis ils n'ont jamais sorti les films ou à peu près pas.
C'est hard, hein?
Ouais.
C'est magnifique, Disney. En plus.
Ouais, exactement. Il y a aussi 9... attendez un petit peu, je ne retrouve pas le chiffre. 9 films muets. Ce qui devrait. Il y a quand même 30 ans de l'histoire du cinéma qui sont muets. Il y a des grands absents, entre guillemets. Laurence d'Arabie aussi, qui est quand même un des premiers films épiques des années 60 de David Lean, qui se retrouve plus sur cette liste. Il y a Le Parrain 2 aussi, qui des fois est considéré comme le meilleur, mais là, moi je suis pas d'accord, mais en tout cas, mais il n'est plus dans le top 100, tout simplement. Mm-hmm. Bref, quelques films de Scorsese. Il y a quand même beaucoup de différences par rapport à la dernière liste. Puis c'est ça, ça fait jaser les cinéphiles. Puis moi, je suis un peu contre le principe, ce principe de liste-là, parce que classer de l'art, c'est particulier un peu.
C'est
quand c'est ton propre top, tu peux le classer, mais comme ça, il devrait juste sortir une liste, je sais pas, chronologique des films à regarder une fois dans sa vie, quelque chose comme ça. Mais évidemment, ça attire pas les clics. Donc, ça attire beaucoup de clics, ce film-là, Jeanne Dielman, 23, qui est du commerce, 1080 Bruxelles. Donc, essayez d'écouter ça quand vous aurez 3h30 de lousse dans le temps des fêtes, peut-être. Peut-être que ça se trouve plus facilement en Belgique qu'ici, on ne sait pas. Mais bref, c'est ça, vous irez consulter la liste. En fait, la liste totale des 250 films sort aujourd'hui, je crois, en format papier, il faut payer. Mais en tout cas, ça devrait se rendre prochainement. Mais le top 100 est disponible en ligne. Donc, allez voir ça, Sight and Sound. Donc, voilà, c'était mon petit topo de cinéphile. On s'en va en musique avec une pièce qui nous a été demandée, une demande spéciale. D'horreur, donc The Curious Incident avec Eating Sunshine, et on revient dans quelques instants pour parler à Louis-Étienne Santé.